VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h à Gao, au Mali. Bonjour à tous, bienvenue. La France et l'Europe doivent se préparer à de nouveaux attentats, a affirmé aujourd'hui le Premier ministre français Manuel Valls, en indiquant que plus de 150 perquisitions avaient été menées sur le sol français dans les milieux islamistes depuis vendredi. La France a mené aussi des frappes intensives contre des positions djihadistes en Syrie. L'enquête se concentre sur la Belgique et sur trois frères dont l'un est recherché. Cela dit, les attentats de Paris ont été unanimement condamnés en Afrique et notamment au Mali, des Maliens anonymes, la classe politique en passant par les organisations de la société civile. Les populations de Gao qui ont connu l'occupation des terroristes expriment leur tristesse, leur colère et invitent le peuple français à ne pas baisser les bras.
Au fond de notre cœur, ça blesse. 129 morts et 352 blessés. Donc ça vraiment, ça joue sur notre mémoire et ça nous dérange beaucoup. Ce que j'ai à dire pour le peuple français, ils ont notre soutien moralement et on ne va jamais les oublier par rapport à ce qui s'est passé. On aurait à dire que du courage. Gao aussi, c'est Paris.
Ce qui se passe en France, on n'est pas content de ça. Nous sommes tristes. Beaucoup de courage. Il ne faut pas baisser les bras. Sinon, les terroristes vont gagner. À tout le peuple français, nous présentons nos condoléances. On ne peut pas oublier la France parce qu'elle nous a soutenus au moment de la crise ici à Gao. Bon courage, bonne chance.
Micro-trottoir réalisé à Gao après les attaques de Paris par notre correspondant sur place, Boubacar Touré. L'opposant nigérien Ama Amadou, de retour d'exil, a passé les deux dernières nuits en prison dans son pays, rentré samedi après-midi à Niamey. L'ancien président du Parlement et candidat à la présidentielle de février 2016 a été arrêté à sa descente d'avion. Il est poursuivi dans l'affaire de trafic d'enfants, dans laquelle sont également citées son épouse et 30 autres personnes. Correspondance à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Après quelques instants passés à la maison d'arrêt de Niamey, l'ancien président de l'Assemblée nationale a été transféré à la prison civile de Filengué, située à près de 200 km de Niamey. C'est là-bas qu'il va passer son séjour en attendant une probable demande de mise en liberté provisoire qui sera introduite par son conseil d'avocat, Maître Mossi Boubacar.
Naturellement, nous allons demander à ce que nous soyons relâchés, parce qu'il ne s'agit pas d'un mandat de dépôt en exécution d'une peine de condamnation, mais il s'agit simplement de la peine de le présenter aux autorités judiciaires. Et cela, forcément, on doit le présenter devant les autorités judiciaires, parce que la gendarmerie ne peut pas le juger. Donc, il sera forcément présenté à un juge. Or, il a déjà un avantage certain, c'est que même les auteurs principaux de la procédure sont en liberté provisoire. Je ne vois pas comment est-ce qu'un complice va continuer à garder prison.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Des nouvelles de la campagne électorale au Burkina Faso, le CDP, le parti de Blaise Compaoré, recalé à la présidentielle, a fait son premier meeting hier dimanche à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne des législatives à la lumière du contexte post-insurrectionnel et après le coup d'État manqué. Beaucoup se demandaient comment cet ex-parti au pouvoir allait aborder la campagne. Reportage à Ouagadougou, Zoumana Ouanogo.
Le CDP, le parti de Blaise Compaoré, a tenu son premier meeting des législatives. Mais avant cette sortie officielle, la question était, est-ce que le CDP va pouvoir battre campagne normalement? Pour trouver réponse, nous avons rencontré l'avocat et activiste des droits de l'homme, Prosper Farama.
Dans certaines localités, il est évident que le CDP aura de grosses difficultés à pouvoir battre campagne sur le terrain, vu la révolution que le peuple a à leur égard. Mais bon, je pense aussi qu'il ne faut pas perdre de vue que les législatives, ce sont des élections de proximité. Et qu'au-delà des logos des partis, les populations, quelque part, votent des individus.
Sur les lieux du meeting, Ambroise Tapsoba, le secrétaire adjoint à la communication du CDP, est revenu sur l'état d'esprit qui anime son parti en abordant cette campagne.
Nous sommes confiants. Nous, c'est les actes. Nous travaillons de porte à porte. Et vous allez voir, dans les jours qui vont suivre là, ce que nous allons faire.
Appréciant la situation, voici ce que Maître Ali Douédrogo, le président de la CODEL, Convention des OSC pour l'observation domestique des élections, nous a confié.
Il peut faire la campagne parce que c'est fini le temps où on vous voit autour du bois pour vous kidnapper. L'État a rassuré les candidats. Je pense qu'il peut aller tranquillement, sereinement. Il n'y aura pas de violence. Je souhaiterais que les électeurs accueillent les candidats avec ferveur, les écoutent pour pouvoir les choisir ou ne pas les choisir.
La campagne présidentielle entame quant à elle sa deuxième semaine. À mi-parcours, que pensent les Burkinabés des messages des candidats présidentiables?
Il n'y a aucun programme qui soit vraiment original. Chacun vient, c'est comme si vous prenez n'importe qui dans la rue et vous lui dites, si tu es élu président du FASO, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis il va te dire, bon voilà, les routes, les hôpitaux, les écoles, et puis bon, c'est toujours le même blablabla, quoi. Je trouve que c'est une campagne qui est un peu fade.
Il y a deux ou trois qui arrivent à convaincre qu'ils savent de quoi ils parlent. Le MPP avec Roch Marc-Christian Kavore, donc, qui a un programme, mais qui n'est pas budgétisé. Il y a l'UNIPS de Maître Benoende Sankara, qui propose 6 000 milliards, à moins que je ne me trompe, pour développer le Burkina en 5 ans. Il y a aussi le programme des Zéphirins. Lui, il veut, par exemple, 15 000 milliards. On attend de voir. Dans les jours à venir, ils vont nous dire comment ils comptent effectivement mobiliser ces ressources-là.
Avant, là où je pensais aller voter, maintenant, je me rends compte que ce qu'ils sont en train d'avancer, c'est pas ça. Donc, je vais faire marche en arrière. C'est politique. Personne ne dit vraiment la vérité d'abord. Alors, pour l'instant, personne ne m'a déjà convaincu avec ces idées. Les idées ne me plaisent pas.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Burundi, au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Bujumbura au cours d'affrontements distincts entre insurgés et policiers et lors d'une attaque contre un bar, ont indiqué à l'AFP une source policière et des témoins. Ces affrontements sont les premiers d'ampleur depuis une opération de désarmement lancée au début du mois de novembre par la police dans les quartiers contestataires de Bujumbura. En Centrafrique, mobilisation générale pour accueillir le pape François attendu à la fin de ce mois de novembre à Bangui. Une visite pleine d'espoir pour les Centrafricains qui y voient un début de solution à la crise qui mine le pays depuis bientôt 3 ans. Dossier suivi par notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Cette grève sèche et illimitée fait suite à celle observée du 11 au 13 novembre 2015 pour dénoncer ce que la dite confédération qualifie du retard répétitif et injustifié dans le paiement de salaire des enseignants et le paiement partiel des primes des examens et concours de l'année 2014-2015. Le 7, un autre syndicat des enseignants du Tchad appelle ses militants à observer ce mot d'ordre de grève et conditionne la reprise de toute activité scolaire avec la satisfaction totale de ses revendications. Le syndicat national des professionnels de l'éducation du Tchad donne de son côté un préavis de 6 jours au gouvernement pour lui permettre de payer les 12 mois d'arriérés de subsides des maîtres communautaires qui s'expirent ce lundi. La semaine qui commence risque d'être perturbée dans le secteur de l'éducation nationale. André Kodma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Voilà, André Côte Majinga a invité surprise pendant que je parlais du pape en Centrafrique. On parlait donc de grogne à l'éducation nationale au Tchad, les enseignants du primaire et du secondaire sous la bannière de leur confédération indépendante entre en grève illimitée à partir de ce lundi et ce sur toute l'étendue du territoire national du Tchad et on avait les explications d'André Kondmajinga. On revient en Centrafrique où je l'ai dit, mobilisation pour accueillir le pape. Tout de suite, le dossier avec Freeman Sipila.
Beaucoup de Centrafricains que nous avons rencontrés pensent que la visite du pape François en Centrafrique est un début de solution à la crise dans le pays.
Ça peut apporter peut-être la paix.
Le pape, c'est un messager du Christ qui est porteur de bons messages, de messages de tolérance, de pardon.
Même réaction du côté de la communauté musulmane du 3e arrondissement, Adia Asta, présidente de l'Organisation des femmes musulmanes de Centrafrique.
Que le pape vienne à Bangui, ça va nous aider, ça va toucher aussi le cœur de nos frères qui agissent rapidement. Nous ne sommes pas contre.
Alors que tous les efforts se conjuguent pour réussir cet événement important, des rumeurs faisant état d'annulation de cette visite papale en raison d'insécurité circulent dans le pays. L'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Zapalainga, dément ces rumeurs et rassure les Centrafricains.
Rien n'a changé dans le programme. Le pape viendra en Centrafrique.
Selon le calendrier officiel, le pape François visitera la Centrafrique du 29 au 30 novembre 2015. Freeman Sipila, Bangui.
Et l'enquête sur le crash de l'Airbus russe de la compagnie Metrojet dans le Sinaï, qui a fait 224 morts le 31 octobre, entre dans sa phase finale, a annoncé aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs pays ont évoqué la piste d'une bombe à bord de l'Airbus de la compagnie russe Metrojet qui devait relier Saint-Pétersbourg au départ de Sharm el-Sheikh en Égypte. Et puis, en marge du sommet du G20 en Turquie, Barack Obama et Vladimir Poutine ont eu hier une discussion sur l'urgence d'agir contre le groupe État islamique. La rencontre est qualifiée de constructive par Washington, mais pour Moscou, des divergences demeurent. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochain rendez-vous dans 50 minutes. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.